Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Pense au podcast.
Oui !
Bonjour à tous, bonjour à toutes, eh bien c'est l'heure des chroniques des bibliothécaires, donc on est bien content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on est avec Claudie, avec Géraldine, avec moi-même et Anne, dans l'ordre de ce qu'on va vous raconter d'ailleurs. On va commencer par Claudie qui va nous parler d'un roman.
Merci Antonin. Alors chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui je vous présente un roman qui vous décrit de manière romancée la vie de Robert Desnos. Il s'agit de « Légende d'un dormeur éveillé » de Gaël Nohant. Voici comment débute le roman. Il avait oublié les odeurs puissantes des halles, les voix hurlées, le choc des charrettes croulant sous les légumes et les fruits. Il est heureux de retrouver sa ville. Le premier soleil enlumine les gargouilles de la tour Saint-Jacques. Les balayeurs abandonnent le parvis de la gare Saint-Lazare et, aux terrasses voisines, l'odeur du café se mêle à l'encre fraîche des quotidiens du matin. La vieille clocharde de la rue de Seine replie soigneusement son lit de journaux. La sirène d'un remorqueur sous le pont neuf, le tremblement des réverbères qu'on éteint, les cigarettes qui rougeoient entre chiens et loups, à cette heure incertaine où ceux qui vivent à contre-temps, ceux dont c'est l'ivresse, vont s'écrouler quelques heures, Robert est de ceux-là. Pour lui, la vie ne saurait se limiter au jour. Il y a trop à faire. Tant de musiciens à écouter, de vins à boire et d'amis à saluer. Il dort le moins possible et des cernes profonds ombrent son drôle de regard myope. Sans ses lunettes, tout devient flou. Libre est réellement le mot qui symbolise le mieux la vie tumultueuse de Robert Desnos dans le Paris des années 1930. Autodidacte, apprenti poète, chroniqueur radio, il rencontre les intellectuels les plus prestigieux de l'époque, Aragon, Breton, Prévert, Picasso, Éluard, Garcia Lorca, et j'en oublie encore. André Breton nous est décrit comme une personne autoritaire. Et Robert Desnos, aussi surprenant que cela puisse paraître, est dépeint comme une personne impulsive qui n'hésite pas à se bagarrer. Mais il est, avant tout, intransigeant sur sa liberté. Il se sentira libre de quitter les surréalistes au moment où André Breton exige qu'il adhère au Parti communiste français, et libre d'aimer de manière passionnée deux femmes, Yvonne, Georges et Yuki, même si ses amours n'étaient pas partagés, libre de ne pas s'enfuir au moment où la Gestapo vient pour l'arrêter afin d'éviter à Yuki de se faire elle-même arrêter. Il avait été averti par un de ses amis. Libre d'espérer encore quand il sera envoyé dans les camps de concentration. Robert Desnos tenait tellement cette liberté qu'il l'a inscrite au-delà de sa mort. Sur sa pierre tombale est inscrit « J'ai vécu dans ces temps et pourtant j'étais libre ». C'est un livre passionnant qui nous décrit de manière très documentée le Paris d'avant-guerre et celui de l'occupation. Le roman est entrecoupé de courts extraits de poèmes de Robert Desnos qui nous permet de le rendre encore plus proche. Pour les chanceux qui l'ont vu, elle était à la médiathèque Césaire la semaine dernière. Je parle bien sûr de l'auteur, hein, Gaël Nohant. Restons dans la poésie avec Géraldine qui vous présente un recueil de poésie.
Salut, salut, bonjour à tous. J'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui effectivement pour vous faire découvrir un recueil de poésie destiné à la jeunesse qui s'intitule « Sur un arbre caché ». Recueil de poésie pour la jeunesse, mais comme vous le savez, la jeunesse ne se termine jamais. « Sur un arbre caché » rassemble des poèmes écrits par Constantin Kaïteris. Tous ces poèmes nous parlent des arbres et de la forêt, des forêts. Kaïteris est un poète contemporain, né à la fin des années 40 à Paris. Il a le français comme langue maternelle et le grec comme langue paternelle. Enseignant de français, lexicographe, traducteur, par goût et par choix, il dit de lui qu'il vit quotidiennement en plusieurs langues. que la traduction est une part cohérente de son écriture, parce que c'est une forme d'écriture sous contrainte. Voilà, cet homme aime à parler langue, à manier la langue, pour trouver le mot juste et surtout le mot simple. Il choisit de construire des livres plutôt que de récolter des poèmes dans des recueils. Entrons maintenant dans cet ouvrage avec un des premiers poèmes qu'il constitue et qui s'intitule « Vous entrez maintenant dans une forêt ». On n'entre pas dans la forêt comme dans un marché. Il faut baisser la voix, promener ses yeux autour de soi, deviner les bruits, poser le pied avec douceur, respirer la fraîcheur, écouter le silence, sourire à qui y vit et qu'on ne voit pas. Sur un arbre caché est un ouvrage qui fait partie de la collection Pomme Pirate Papillon de la maison d'édition. Dans cette belle collection, les illustrations intérieures sont toujours en noir et blanc. C'est un choix éditorial pour mettre en évidence le dessin et le texte et leur correspondance. L'illustratrice de ce livre s'appelle Johanna Boya. Elle a déjà collaboré avec Constantin Kaïteris dans cette même collection sur un ouvrage qui s'appelle « Un jardin sur le bout de la langue », dans lequel il était question, cette fois-ci, de fruits et de légumes. Johanna Boya est polonaise. Elle a travaillé comme graphiste, décoratrice, pendant plus de 20 ans comme designer chez Pierre Cardin, et désormais elle se consacre entièrement à l'illustration. Elle illustre avec ses gouaches, ses crayons de couleur, mais aussi avec du collage, bout de papier, tissu. Dans cet ouvrage, elle travaille au crayon de couleur pour la couverture, papier pour l'intérieur. Ce qui tient particulièrement à cœur à Johanna Boya, et qu'elle réussit très bien, c'est d'exprimer dans ses illustrations l'ambiance, les émotions, la poésie qu'elle peut ressentir dans les textes illustrés. Ici, la correspondance et l'échange entre le texte et les images est subtile et très belle. Bon, il n'y a rien à faire. Je trouve que ce qui est le plus parlant, c'est de donner à entendre les mots du poète. Alors, je vous en lis un dernier pour la route et puis surtout pour le plaisir du partage. Il s'intitule « Rêve de forêt ». Rêve et forêt sont au pluriel. Les forêts du rêve tiennent tout entières sur la pointe d'une aiguille de pin. Les forêts du rêve sont sans fin et on se retrouve sur tous les chemins. Dans les forêts du rêve, le temps ne se montre plus et reste suspendu aux plus hautes branches. Dans les forêts du rêve, il n'y a pas un instant à perdre. Tous les instants sont à perdre. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite à tous d'innombrables instants perdus et je vous invite à découvrir « Sur un arbre caché » de Constantin Kaïteris dans les rayonnages Poésie des espaces jeunesse, Médiathèque Vaillant et Césaire. Antonin, c'est à toi pour nous présenter, je crois, un film documentaire.
C'est ça. Eh bien, rebonjour à tous et rebonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un documentaire rigolo. Vous allez voir. La justice, c'est un sujet grave. Mais quand il est abordé dans la série documentaire des Striptease, bien connue depuis des années dans la programmation de France Télévisions, on ne sait à quoi s'attendre. Cette série a l'habitude de questionner, à travers l'intimité des personnes suivies, que l'on pourrait souvent qualifier de marginaux, l'humanité dans ses petites fragilités et ses étincelles d'originalité. En 2008 et en 2012, ont été tournés dans le cadre des Striptease un diptyque brossant le portrait d'Anne Gruvez dans sa fonction de juge d'instruction bruxelloise. Ces épisodes sont de vraies pépites, beaucoup moins excentriques, mais d'autant plus surprenants que les sujets sont graves et que cette juge haute en couleur sort de l'ordinaire. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de « Ni juge ni soumise », un reportage qui fait suite à ces épisodes plus anciens de Striptease. En 2017, donc, les documentaristes Jean Libon et Yves Inan sortent dans une version plus longue, beaucoup plus travaillée et ce sur plusieurs années, un portrait étoffé de ce couperet de justice. Cela augurait du grand cinéma et après visionnage, confirmation, c'est une vraie réussite. Nous avons là un documentaire terriblement captivant qui serait capable de vous faire sourire par son loufoque et la seconde après vous saisir de gravité. Sous couvert d'excentricité, nous découvrons en détail, dans l'intimité, cette juge pas comme les autres, qui touche au plus près de la notion d'humanité. Mais attention, point de mièvrerie, elle a beau se balader un rat sur l'épaule, traverser Bruxelles en deux chevaux pétaradantes, les criminels qui passent dans son bureau n'en sont pas moins réels, pas moins poussés dans leur retranchement pour qu'elle statue sur leur cas. Souvent, les sujets, de par leur sérieux, malgré cette franchise désarmante, n'en demeure pas moins troublant. Si par sa vergue, cette juge peut vous faire oublier la lourdeur des sujets traités quotidiennement, les documentaristes savent, au bon moment, à plusieurs reprises, nous alarmer et nous rappeler la triste réalité des cas très complexes et poignants, par une brillante mise en scène et un découpage très travaillé. Contrairement aux courts épisodes des striptease, les auteurs ici ont pu se permettre, sur ce plus long format, beaucoup plus de mise en scène. Ils ont pu se permettre de travailler les jointures, les blancs, les mises en perspective, qui souvent appuient de belle façon le sujet soulevé. Cela complète d'une très belle façon la facture générale du documentaire. Pour conclure, et c'est assez illustrant, je vous passe la bande d'annonces qui donne un petit aperçu du ton de cette œuvre.
Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire avec vous ? J'ai fait le calcul. En prison, ça coûte 150 euros par jour. C'est une fortune. En fait, ce qu'il y a de moins cher, c'est que vous mouriez tout de suite.
Sa maman, ma grand-mère et le grand-père de mon père, c'est des sœurs et frères.
Oui, mais attendez, vous imaginez un peu ? La consanguinité, c'est connu depuis toujours. Ça fait des siècles qu'on sait ça.
On en apprend tous les jours.
Je n'en ai peut-être pas l'air, mais j'ai suivi des cours de self-défense et je suis parfaitement capable de vous plaquer toute seule au sol. Si vous en souhaitez la démonstration,
c'est quand même une femme, madame la présidente.
Je le fais immédiatement.
Mais non, je ne peux pas.
Sauf que vous allez vous retrouver d'abord assommé. Parce que je vais d'abord vous assommer, ensuite vous plaquer au sol. Si demain vous réattaquez une bobonne, c'est ma tête qu'on verra dans la presse en disant « Cette connasse a libéré un type dangereux ».
Chacun se console à quelque chose. C'est comme moi. Comme moi, mon ex-femme est partie. J'ai adopté un chien pour...
Remplacer votre femme.
Voilà. Hein.
Si vous vous écartez, si vous me trahissez, alors je peux vous gérer de la prison. C'est rien à côté de moi.
Voilà, ça donne envie, j'espère.
Ah ouais, super.
Vous pourrez donc retrouver ce documentaire dans les rayons de la médiathèque Vaillant. Eh ben, je passe la parole à Anne.
Mais oui.
Qui va nous parler de musique.
Mais oui, formidable.
C'est étonnant.
Mais bonjour. Bon, alors aujourd'hui, on va pas chipoter des heures. Hein. Aujourd'hui, je vous propose une chronique sur un album qui n'est absolument pas nouveau, puisqu'il y a presque 2 ans. Et c'est pas les nouvelles sorties qui manquent, non, mais cet album-là, s'il n'a pas été pour moi un coup de foudre auditif ou un truc immédiat, voilà, il s'est au contraire imposé petit à petit de façon égale, constante, pour finalement venir figurer dans la liste des disques vers lesquels on revient toujours. Flo Morrissey et Matthew E. White sont deux chanteuses et chanteurs qui mènent chacun une carrière solo de leur côté. Bon, et alors, ils se sont rencontrés lors d'un concert hommage à Lee Hazlewood, où ensemble, ils ont chanté un morceau du chanteur, pilier de la pop américaine des années 60. Et là, ils s'accordent tellement bien qu'ils se mettent à travailler sur différentes reprises d'artistes divers et variés, passant de James Blake à Leonard Cohen, des Bee Gees à Nino Ferrer, en passant par le Velvet Underground. Vous allez me dire, oui, alors deux albums de reprise, d'accord, merci bien, mais il y en a beaucoup des albums de reprise, non ? Et la création, bordel, un peu d'originalité, que diable ! Oui, c'est vrai. Mais là, cet album réussit l'épreuve du feu, puisque chaque morceau est entièrement retravaillé, revisité, remodelé. Aussi, les deux artistes parviennent à la fois à garder l'esprit originel de chaque morceau, tout en y instillant leur marque artistique, vocale et musicale. Le résultat, c'est que potentiellement, ces reprises ne sont pas reconnaissables, ou presque. Et ça, dans le travail de reprise, c'est fort, très fort. On navigue alors sur 10 morceaux réconfortants, tranquilles, à l'humeur positive et chaleureuse, qui arrivent à en mêler soul, psyché, acid rock, pop, tout à la fois.
We'll be right back.
Ce qui est notable sur Gentlewoman Ruby Man de Flo Morrissey, Matthew E. White, c'est que presque tous les morceaux sont chantés à deux. Et là où les deux protagonistes de cette histoire auraient pu se contenter de réciter simplement ses monologues initiaux, nous entendons en réalité une dizaine de courts dialogues, sans percevoir à aucun moment le travail qui a été apporté à ces morceaux. Tout s'écoute sans tension, naturellement. Vous pourrez retrouver Gentlewoman Ruby Man de Flo Morrissey et Matthew E. White à la médiathèque Vaillant, et on se quitte sur le titre d'ouverture de l'album « Look at what the light did now ».
What the light did now, or bury like a bounce upon the beat. Go look at what the light did now.
Voilà, c'est la fin des chroniques des bibliothécaires de Bourg-en-Bresse. On vous retrouve le mois prochain avec des chroniques sur des livres
encore
pour
mieux.
Les adultes, pour les enfants, de la musique et de la vidéo. Fantastique, formidable. Allez,
ciao,
ciao,
ciao, ciao, à bientôt.
Ciao.